Hurt.
Sous les couvercles, la good food.
On nous a dit, investissez, produisez. Le progrès fera de vous des dieux. Produisez plus et plus encore. Allez-y à fond, la performance ou la disparition. Nous avons suivi les consignes, les emprunts, les machines. Les emprunts pour payer les machines et les machines pour payer les emprunts. Gagner du terrain, avaler son voisin, débrider son moteur, grossir les montagnes de beurre, de sucre, de viande et de blé. Et puis regarder, impuissant, les prix dégringoler sur l'autre versant. Un seul moyen pour t'en sortir, force la dose. Force la vache, force le sol, cravache, ou tu vas mourir.
Voilà pour la claque du jour, Carlon.
Ah oui, mais ouais. Par contre, j'ai décelé peut-être l'une ou l'autre approximation.
Alors,
mais juste, c'est pas mon rôle.
Juste encore, juste vous expliquer.
Oui.
Qui a écrit ça?
Je ne sais pas.
Parce que ça dit tout. C'est une agricultrice belge, elle s'appelle Christine Faux. Et c'est un collectif, d'ailleurs des auditeurs de Bientôt à Table, Philippe Delisle et Guillaume Ledan, avec le collectif Brasero, qui ont voulu mettre ça en musique parce que ça parle sans doute plus que quelques mots comme ça lâchés sur les réseaux sociaux. Alors, il y a peut-être des approximations, mais ce sont cas les approximations d'une agricultrice.
Ce qui m'a fatigué, et je rends la parole tout de suite, c'est les montagnes de beurre et les montagnes de sucre et les montagnes de viande. À l'époque où il y avait ça, au moins il y avait les fameux prix d'intervention. C'est-à-dire que ça permettait vaguement de gagner un peu mieux sa vie. Donc,
mais on en parle au passé.
Révolue,
c'est voilà, mais c'est révolue. La réalité d'une agricultrice. Petite réaction, Laure Ducos, notre invitée du jour, autrice de cet ouvrage « Les frites viennent des patates ». Ça dit tout, finalement, ces quelques mots?
Oui, ces quelques mots sont glaçants. Ils expriment bien le mal-être, le désarroi de beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont de plus en plus nombreux à témoigner. Et en fait, on voit bien qu'ils sont étranglés, qu'ils sont poussés par tous les acteurs qui veulent se faire justement du beurre sur leur dos. Mmh. Les acteurs financiers, les traders, on pourra y revenir, les géants de l'agro-industrie. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une poignée d'agro-industriels, donc une poignée de multinationales comme Cargill qui sont à la tête de ce monopole. Et qui, par exemple, j'aimerais bien donner juste un chiffre.
Ouais.
Cargill, c'est la plus grande entreprise privée aux États-Unis. Elle appartient à la 11e famille la plus riche du monde. Elle détient, en gros, elle fait partie des 4 gros qui, à eux 4, détiennent entre les 3 quarts et 90% du marché mondial de céréales. Donc c'est gigantesque en termes de pouvoir. Et cette famille Cargill, il faut savoir que depuis le début de la pandémie de Covid-19, la fortune de ses membres a augmenté de près de 20 millions de dollars par jour.
Oui.
20 millions de dollars par jour. Dans un contexte, elle a généré un bénéfice net de près de 7 milliards de dollars en 2021-2022. C'est-à-dire qu'on est dans une période où on parle beaucoup d'inflation, de crise et de mal-être des agriculteurs qui n'arrivent pas à se rémunérer correctement. Ce témoignage l'a très très bien montré. Et à côté, on a des multinationales qui se font de l'argent et de l'argent.
Les fameux Big Four, ABCD, qui se partagent aujourd'hui 80% du marché. L'autrice Nora Boisini, qui était venue il y a quelques mois de cela nous en parlait avec son ouvrage Manger les riches, disait que la flambée des prix a contribué à créer 62 nouveaux milliardaires de l'alimentation en moins de 2 ans. Ça dit tout. Mais c'est vrai que ces Big Four, ils tiennent la filière de A à Z. Ils négocient, ils stockent, ils vendent, ils transportent, ils transforment, ils distribuent le blé. Ils savent l'état des stocks. C'est de là que vient le problème. C'est que ceux en dessous n'ont plus la main sur rien, finalement. Ou presque.
Alors, oui et non, c'est ça, ou presque.
Je nuance.
Oui, c'est ça. Il y a plusieurs choses qui expliquent le problème des prix, de l'inflation et de la difficulté pour certains pays ou certaines personnes à acheter à manger aujourd'hui. Il y a effectivement la spéculation qui est faite sur les matières premières par des entreprises comme Cargill. Il y a aussi, donc ça, ça a été montré, oui. Ça a été démontré notamment après le lancement de l'attaque de l'Ukraine par la Russie, où il y a eu une flambée des prix de céréales et qui a entraîné donc une augmentation de ces, enfin, pardon, la spéculation foncière, la spéculation, pardon, sur les matières premières a entraîné d'augmentation des prix, ce qui a généré des craintes et des grands problèmes, en fait, pour les pays importateurs nets de céréales, qui étaient très dépendants de ces importations. Et d'ailleurs, on a, à ce moment-là, pour la petite parenthèse, il y a eu beaucoup de, l'agro-industrie, comme les syndicats agricoles et les lobbies de l'agro-industrie se sont engouffrés dans cette brèche en disant, attention, il n'y a plus de céréales, il faut produire plus et donc faire sauter les normes environnementales. Alors qu'en réalité, c'était avant tout un problème de spéculation sur les marchés.
Oui, vous interromps alors une seconde et le politique français s'est rué aussi dans cette brèche-là en disant c'est la faute aux politiques environnementales. Je vous remercie de souligner ça parce que c'est vraiment important de le dire. On se trompe d'ennemi.
Tout à fait. En fait, quand je parle d'agro-industrie, en fait, je mets l'État dans l'agro-industrie en tant que fervent soutien et plus que complice, acteur de cette industrialisation à outrance depuis des années. Et donc, aujourd'hui, donc, on a montré, depuis le lancement de la guerre en Ukraine, des ONG ont montré, ont analysé, des économistes aussi, ont montré qu'il y avait une forte spéculation sur les marchés qui expliquait en partie la hausse des prix. Aujourd'hui, ce n'est pas la seule chose qui joue, voire cette spéculation et alors les retombées, pas totalement bien sûr, les traders, continuent à se faire de l'argent, mais ce n'est pas ce qui explique toute la question du problème des prix. Il y a aussi, alors du fait de la guerre en Ukraine, du fait des tensions géopolitiques, du fait de plein de facteurs, il y a une hausse très élevée des prix de l'énergie, une hausse des prix du gaz, du pétrole, de l'électricité, et ça augmente les charges des producteurs. Donc les producteurs se retrouvent vraiment à la corde au cou puisque les agro-industriels n'augmentent pas forcément les prix d'achat, mais eux ça leur coûte de plus en plus cher, et lorsqu'ils augmentent leur prix d'achat, les agro-industriels, ils le répercutent sur les prix de vente. Ça explique une partie. Et puis même pour les transformateurs, les agro-industriels qui achètent par exemple du blé et qui le transforment en gâteau, ils ont des frais, des charges extrêmement élevées en électricité ou en gaz, par exemple. Donc ça explique en partie. Et puis, il y a bien sûr la grande distribution. Oui. La grande distribution qui se fait des marges conséquentes pour certaines entreprises et sur certains produits en particulier, qui se fait de très fortes marges. Alors que ce qui a été montré, c'est que les marges sont plus élevées que ce qui correspond à l'augmentation des prix de production, à l'augmentation des prix d'électricité, par exemple. Juste une phrase, pour que les personnes comprennent bien, c'est que la grande distribution et l'agro-industrie, les transformateurs, se renvoient tout le temps la balle. Grande distribution dit « c'est pas nous, ce sont les agro-industriels », et l'agro-industrie dit « c'est pas nous, c'est la grande distribution ». Et en fait, il y a certaines entreprises qui font les choses bien, qui n'ont pas augmenté les prix plus que ce qu'il fallait. Et il y en a beaucoup qui ont abusé et qui abusent toujours.
Carlo, je vous laisse la parole dans une petite seconde. Mais juste pour réagir, il y a eu l'excellent magazine Investigation cette semaine sur la Une, que vous pouvez revoir évidemment sur Ovio. Il y avait le cas très pratique et illustré de la firme Soubry, belge. Pâtes, farine. Donc on voit effectivement que les coûts de cette entreprise ont augmenté, et ça vous venez de l'expliquer, coût de l'énergie, 37 millions d'euros, bam. Elle aurait pu effectivement répercuter un petit peu sur le prix, or on constate que les recettes de Soubry ont augmenté de 44 millions d'euros, donc ça veut dire qu'elle a augmenté davantage ses prix qu'elle n'aurait simplement dû faire pour compenser des coûts qui augmentent. Donc effectivement, ce que vous venez de lire là, ça concorde finalement. Ils se sont dit quand même, on va un petit peu plus gonfler parce que quand même, on fait du business, quoi.
Déjà qu'ils ne veulent pas répondre aux interviews, on va se faire des amis.
Ouais,
et Soubry, c'est même pas un Big Four, c'est vraiment un tout petit sur l'échelle et avec un marché très domestique, Pays-Bas, Belgique et peut-être un peu le nord de la France. Mais je voulais signaler aussi, Sophie, alors je ne sais plus si c'était dans Investigation ou ailleurs, le directeur, le patron de l'association des distributeurs belges.
C'était dans Investigation.
A lâché également. Ah, l'agriculture, c'est un business comme un autre. Or non, Laure, je suis sûr que vous avez beaucoup à nous apprendre là-dessus. L'agriculture n'est pas un business comme un autre parce qu'elle obéit à des contraintes de climat, des contraintes environnementales, là pour le coup, oui, elle obéit à des contraintes aussi de production qu'elle ne peut pas maîtriser. Donc effectivement, c'est aussi, on se plaint beaucoup de la politique agricole commune, mais au départ, rappelons-nous, la politique agricole commune était là aussi pour soutenir les prix et c'est sous la pression, notamment de l'OMC, de l'Organisation Mondiale du Commerce, qu'il a fallu faire marche arrière. Vous en pensez quoi de ça, Laure ?
Vous avez très bien expliqué la situation. En fait, aujourd'hui...
Efficace, Carlo.
Je me l'explique. C'est la vraie journaliste experte, oui.
En fait, on a un problème au niveau de tous les acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se renvoie la balle. Non, c'est leur faute à eux. Non, c'est à eux. En réalité, il y a un vrai problème qui est politique. Aujourd'hui, on a une politique agricole commune qui favorise l'agrandissement des fermes. En gros, pour faire simple, la plupart des aides sont attribuées selon la taille de l'exploitation, la surface des exploitations ou la taille du cheptel, donc la taille du troupeau, plutôt que par rapport à l'emploi, par exemple. Donc ça, c'est une demande qui est portée par les organisations de transformer ces règles. Donc il y a un problème au niveau politique. Il y a bien sûr un problème au niveau de la concentration des pouvoirs. On en a parlé avec la concentration des Big Four, de ces quatre entreprises ADM. Et il y a bien sûr un problème politique national et un problème de manque de vision, en fait. Aujourd'hui, les politiques préfèrent répondre aux sirènes des lobbies de l'agro-industrie, répondre aux sirènes du capitalisme, de ce qui fait du profit, plutôt que d'avoir une vision à long terme. Et cette vision à long terme, elle doit inclure les enjeux économiques, bien évidemment, parce que si les agriculteurs et les agricultrices ne se rémunèrent pas, on n'y arrivera jamais, en fait. Ils vont continuer de mourir, de fermer. Et aujourd'hui, on a un grand problème de renouvellement, puisqu'il y a la moitié des agriculteurs en France, et j'imagine qu'en Belgique, il y a une tendance similaire avec beaucoup de départs à la retraite.
Exactement. Donc, il y a un très fort enjeu de renouvellement. Un peu mieux quand même, nos Belges.
Et donc il y a un très fort enjeu de rémunération et de renouvellement dans le milieu agricole, mais il y a aussi la nécessité de tenir compte des enjeux écologiques de notre siècle. Mmh. Et ça, j'en parle beaucoup parce que j'ai beaucoup entendu pendant la crise agricole ou après la guerre en Ukraine, les écologistes ont perdu, l'écologie a perdu. Mais ce n'est pas les écologistes qui ont perdu, c'est l'humanité qui perd. Merci. C'est la biosphère qui perd.
Donc vous pointez du doigt une politique court-termiste, clairement. Donc on arrose aujourd'hui avec des subventions, on annonce des enveloppes qui vont soi-disant aider le secteur. On a quand même le sentiment que les agriculteurs n'y croient plus. On en veut pour preuve cette colère-là qui est en train d'exploser au Salon de l'agriculture de Paris. Mais concernant la PAC, Laure Ducos, le New York Times publiait une longue antenne il y a quelque temps. Et c'était choc, cette phrase, je m'en souviens. C'était « Aujourd'hui, les subventions agricoles contribuent à soutenir une sorte de féodalisme moderne dans lequel les petits agriculteurs sont redevables à des barons de la terre proches des milieux politiques. » Est-ce que cette phrase résume à elle seule le schéma actuel dans lequel on est embourbé ?
Oui, tout à fait. Alors encore une fois, il y a de la nuance. Il faut aussi savoir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont milité au niveau européen pour faire évoluer les choses. Et il existe par exemple ce qu'on appelle les mesures agroécologiques, des mesures qui permettent de soutenir les efforts faits par les agriculteurs en matière de biodiversité ou de respect du vivant. Mais ça, ce n'est pas la majorité. Effectivement, la majorité des aides soutiennent l'agro-industrialisation, soutiennent les fermes les plus polluantes, en fait, toutes les plus grosses ne sont pas les plus polluantes, mais il se trouve qu'il y a par exemple, en France, l'ONG Greenpeace a montré que finalement, les fermes les plus polluantes en termes d'ammoniac, les plus émettrices d'ammoniac, qui est un gros sujet aujourd'hui de santé publique et d'environnement, étaient en fait celles qui touchaient le plus de subventions. Donc en fait, on en est là. En fait, finalement, on rémunère l'agro-industrie plutôt que les plus petits producteurs, alors que des choix politiques pourraient être faits différemment.
On en a beaucoup parlé aussi ces derniers jours, tant en France qu'en Belgique, les mesures environnementales. Une large frange des agriculteurs, elles sont pas contre le fait de faire un pas, simplement elles sont acculées. Elles savent pas faire ça en plus. Alors du coup, on se dit, bon ben, ce serait bien de donner un peu de sous pour leur permettre de faire ce pas vers les mesures environnementales. Mais ça coince. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bug à nouveau dans ce système? À la fois, on pousse une industrie ultra-productiviste et les pesticides, vous venez de le dire. À la fois, on dit aux agriculteurs, bon ben, faites un petit effort, mais ils ont pas les moyens, quoi. On a l'impression qu'on tourne en rond.
C'est ça. Alors, moi, c'est ce que j'appelle les injonctions contradictoires. Les agriculteurs se retrouvent d'un côté avec des subventions qui les poussent à l'agrandissement, à l'industrialisation, des banques, il y a tout un système financier derrière, qu'il ne faut pas oublier, et qui pousse à l'endettement. Moi, j'ai des amis et agriculteurs qui, à chaque fois qu'ils sont installés, m'ont expliqué qu'ils étaient poussés à l'endettement, poussés à un modèle industriel. Et ils ont, pour certains, fait le choix de refuser pour ne pas finir endettés, la corde au cou, comme beaucoup d'autres. Mais donc, il y a tout ce modèle financier-là. Excusez-moi, j'ai oublié la question. Est-ce que vous pouvez me la répéter?
Alors, la question, c'était quoi? Parce que
j'y suis.
Les injonctions contradictoires, merci beaucoup.
C'était l'injonction contradictoire
d'information en ce moment. Produire et en même temps être écolo, faire sa part.
C'est ça, merci beaucoup.
Oui.
Parce qu'en ce moment, il y a tellement d'actualités.
Oui, tout à
fait. Et donc, on a des injonctions contradictoires avec d'un côté un modèle donc financier, bancaire, politique qui pousse à l'agrandissement. Et de l'autre côté, on demande des mesures environnementales à la fois au niveau européen et national. Et sauf que les agriculteurs se retrouvent dans l'impossibilité d'agir, puisqu'en plus de ça, il y a une baisse du pouvoir d'achat des personnes qui, du coup, en fait, n'ont plus les moyens et se détournent des produits de qualité à haute valeur ajoutée qui coûtent plus cher. Donc, il y a un enjeu économique et écologique très fort. J'aimerais quand même souligner qu'il y a beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices qui font des efforts, qui arrivent à produire sans pesticides, sans engrais, et qui s'en sortent très bien financièrement. J'aimerais aussi rappeler que ça existe.
Marc-André Sellos, qui est un grand spécialiste des sols qu'on avait reçu dans cette émission, le disait il y a quelques jours dans le journal Le Monde, une très jolie tribune, disait pour gagner le défi environnemental, on a besoin de cette armée colossale des agriculteurs. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'on ne peut pas vraiment compter sur eux parce qu'ils sont dans cette impossibilité d'agir. Est-ce qu'il est en plein dans le mille? Parce qu'ils sont peut-être la clé aussi d'un assainissement de nos sols en France, en Belgique, ces agriculteurs.
Oui, bien sûr que les agriculteurs ont un rôle à jouer et jouent déjà un rôle pour prendre soin des sols, pour prendre soin du vivant. Mmh. Mais pour ça, il faut des moyens. Et tant que normes environnementales seront établies sans leur donner les moyens de les atteindre, ces normes, en fait, il y aura un problème. Et après, aujourd'hui, j'aimerais quand même aussi apporter une nuance. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont contre la lourdeur administrative, qui protestent contre la lourdeur, contre en fait leur épuisement pour pouvoir obtenir les aides, pour pouvoir obtenir les subventions de la politique agricole commune. Et ça, c'est très différent parce qu'il y a un amalgame qui a été fait entre la lourdeur administrative et le poids des normes environnementales.
Oui, tout à fait.
Alors que c'est normes, pas la même chose. Et c'est là qu'on voit beaucoup l'hypocrisie de certains syndicats agricoles ou de certains politiques. C'est que, par exemple, il y a les syndicats agricoles agro-industriels réclament la fin des normes environnementales et disent il faut qu'il y ait les mêmes. D'un côté, ils réclament la fin. D'un côté, ils disent il faut qu'il y ait les mêmes normes environnementales pour tous les pays pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Or, quand au niveau européen, il y a eu le Green Deal et donc le pacte vert et la déclinaison de ce qu'on a appelé la politique de la ferme à la table, qui était justement faite pour donner les moyens à tous les agriculteurs de tous les pays européens de s'engager vers du mieux, vers moins de pesticides, vers moins d'engrais de synthèse, et donc vers une alimentation plus saine pour tout le monde, vers des sols vivants, eh bien, ils ont protesté et ils continuent de protester en demandant l'arrêt ferme et définitif de ces politiques européennes. Donc, on voit là vraiment toute leur hypocrisie où ils disent il faut des normes européennes, il faut des normes qui concernent tout le monde pour éviter la concurrence déloyale. Mais en réalité, ce que veut l'agro-industrie, c'est qu'on ne les embête pas, qu'il n'y ait aucune norme, qu'on les laisse produire à outrance. Sauf que ça, c'est délétère pour l'ensemble de l'humanité.
Dans cet ouvrage, vous parlez aussi de ces collusions dans le monde de l'agrobusiness, tous ces conflits d'intérêts. Bon, là, on part sur la France, la FNSEA, dont on parle beaucoup, qui est le plus grand syndicat agricole français, avec un président, Arnaud Rousseau. Là où ça peut poser question, et ça l'est d'ailleurs, c'est qu'il est aussi céréalier, président du groupe Avril, la pieuvre du milieu. Alors, on se demande comment, à cette place stratégique de présidence d'un syndicat agricole, quand même d'une grande nation productrice en Europe.
Il est agriculteur.
Il est agriculteur aussi, mais comment est-ce qu'il peut à un moment à la fois promouvoir une petite agriculture familiale respectueuse des sols, alors qu'il est aussi de l'autre côté de la Seine, du côté des gros producteurs, quoi.
À aucun moment il ne promeut une agriculture familiale respectueuse des sols.
C'est
en
ce
fait,
qui pose problème.
Pas cette promotion-là. Il défend un modèle agro-industriel. Il défend tous les agriculteurs. Mais en réalité, il ne défend pas tous les agriculteurs. Il en défend certains, les plus gros, ceux qui captent le plus d'argent des subventions et qui sont souvent ceux qui posent le plus de problèmes et qui génèrent le moins d'emplois.
D'ailleurs, si je ne me trompe, Laure, il a carrément dit aux agriculteurs en grève « Allez, maintenant, c'est bon, vous pouvez retourner au travail, non ?»
Oui, en fait, il faut quand même savoir que la crise agricole en France ne vient pas de la FNSEA. La crise agricole, elle est venue d'agriculteurs
de la France. Agricole.
du sud-ouest de la France et notamment de la coordination rurale, mais pas que. En fait, elle a été faite hors syndicat. À la base, la FNSEA avait demandé justement d'arrêter, de ne pas manifester. Et en fait, les agriculteurs ont dit on en a marre. Et ça montre bien qu'au sein même de ce syndicat agricole majoritaire, il y a des scissions en fait. Ils représentent la moitié des agriculteurs syndiqués, mais ça ne fait pas tout. Et même à l'intérieur de ces agriculteurs syndiqués, qui le font parce qu'en fait, ils se retrouvent obligés de ce syndicat pour derrière avoir de la marge de manœuvre sur le terrain. en réalité, ils ne sont pas représentatifs. Mmh. Donc ça montre bien, encore une fois, là, on l'a vu ce matin, que c'est en agriculture. Le Arnaud Rousseau a demandé à appeler au calme, a demandé à entendre Emmanuel Macron. Oui. Et en fait, les agriculteurs étaient mécontents, ils sont quand même rentrés dans le salon.
Ça, c'est pour l'exemple français, mais c'est vrai qu'effectivement, le malaise agricole, il est très perceptible aussi en Belgique. Il y a quelques jours, le ministre wallon de l'Agriculture a négocié des accords d'allègement administratif. Bon, il semble que ça ait un petit peu calmé les esprits, mais enfin, on n'a toujours pas la solution miracle.
Juste pour dire que nos lobbies sont... Il ne faut pas comparer nos lobbies agricoles à FNSEA.
Voilà,
je voulais juste le dire, parce que peut-être qu'ils nous écoutent.
Non, absolument pas. Et ce n'était pas l'objet de ce propos, mais juste pour dire qu'on est quand même dans un système où le malaise est profond, grave, et qu'il y a quand même derrière tout ça quand même une urgence pour l'humanité. C'est qu'il faut protéger notre système agricole. Il faut que nous puissions nous nourrir aussi avec des produits chez nous, l'or. Et c'est là-dessus qu'on va peut-être se quitter, mais est-ce que c'est pas ça la conclusion ? C'est que c'est pas négligeable, c'est une affaire de nation, ça.
Une affaire de nation et puis une affaire de survie, en fait, de l'humanité tout entière. Aujourd'hui, il faut quand même se rappeler qu'en Europe, et par exemple, je prends le chiffre français, mais je pense qu'en Belgique, on ne doit pas être très loin, les Français consomment le double de la consommation moyenne de viande. Oui. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de dire que c'est pire à l'étranger, mais en fait, en Europe, les pays occidentaux mangent beaucoup de viande, de produits laitiers, de produits animaux en général. Or, pour les produire, à moins qu'ils soient bio, par exemple, pour les produire, on importe beaucoup. Donc, quand on parle de souveraineté alimentaire, de souveraineté de la Belgique, de la France, d'autres pays européens, ça veut dire qu'il faut produire sur nos sols, mais bien sûr aussi produire l'alimentation animale sur nos sols. Et or, aujourd'hui, les politiques affichent cet objectif de souveraineté alimentaire. Les Français ou les Belges vont dire qu'il faut acheter local, 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 mais en réalité, acheter un porc local, c'est peut-être, même très probablement, un porc qui a été nourri avec du soja OGM importé, qui a été produit avec des cultures qui ont été arrosées d'engrais ou de pesticides importés.
Le local n'est en aucun cas la panacée universelle. Il faut savoir à quel local on a affaire. Et c'est aussi un large propos de votre ouvrage absolument passionnant à mettre entre toutes les mains, les grands, les petits et surtout les plus petits, parce que ce sont les consommateurs de demain. Ça s'appelle « Les frites viennent des patates dans les coulisses de notre alimentation ». C'est écrit par vous, Laure Ducos, et publié aux éditions Grasset. Merci pour cet éclairage absolument passionnant et très utile. Et je vous souhaite une très très belle journée avec pas mal d'embarras de circulation à Paris avec les agriculteurs qui animent les rues. On va le dire comme ça. Merci beaucoup, Laure Ducos.
Merci beaucoup.
À suivre, Carlo, tout autre chose. Un peu de légèreté dans ce monde de brut. Léonard de Vinci, le gourmand, l'agronome.
Je ne savais pas qu'il était gourmand, mais on l'apprend.
Et l'amateur de grand vin, juste après cette petite pause pub, les amis.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.